katsa kuvalela
Bon voyage.
Salam alaikum.
Malikum salam.
Et vous, le décalage horaire, ça va?
Au détour du monde, Sandrine Mercier.
Cet après-midi, au détour du monde, on balance sa voiture. Vous n'êtes peut-être pas d'accord. Mais c'est pourtant le programme aujourd'hui, 3V, vive les voyages à vélo. Appuie sur les pédales, crève un pneu, pète un rayon, roule avec le vent de face. Qui a dit que le bonheur était au bout du guidon? Eh bien, nous sommes cet après-midi au bord du canal de l'Ourcq, c'est tout au nord de Paris. On a la Villette dans le dos, là, la Géode. Et juste devant nous, le canal de l'Ourcq qui va comme ça. Et nous, on va prendre la voie verte, la fameuse voie verte qui longe le canal pour aller jusqu'à Meaux. On n'ira pas jusqu'à Meaux, même si on est courageux. Alors on se légèle un peu, bien sûr, on s'est un peu trompé de saison, hein, comme ça, 21 janvier. Mais on l'a voulu, notre dimanche, à vélo. Avec nous, trois jeunes courageux, qui sont venus de loin quand même. Hein. Mathieu Monceau, sur son vélo couché. Et Céline et Nicolas Doublet, sur leur tandem. Doublet, pour un tandem, ça ne s'invente pas. Hein. On a dû vous le dire souvent, oui.
Un peu, ouais.
C'était pour ça que vous avez choisi ce mode-là de transport pour faire votre tour du monde?
Bah, le choix, c'était le couple.
Être toujours ensemble, en fait.
Ouais.
Alors, je ne sais pas comment vous remercier, hein, Mathieu, parce que alors, vous avez pris le train de nuit depuis Rodez avec votre compagnon, donc votre fidèle compagnon, Éol. Est-ce que vous pouvez faire les présentations?
Alors oui, donc Éol, c'est le vélo couché. Donc c'est un vélo qui est fabriqué en Hollande. C'est une invention qui date des années 1930 à la base, en fait. Hein. Mais ça a été un peu perdu, un peu bloqué, parce que c'était interdit dans les compétitions officielles. Et depuis les années 80, c'est un vélo qui reprend un peu surface. Et qui...
Ça reste quand même un vélo, un sport, je dirais, marginal pour des marginaux, peut-être.
Oui, d'ailleurs, c'est même pas un sport. Enfin, la plupart du temps, les gens qui s'intéressent à ça, c'est pas vraiment pour le sport. Hein. C'est plus pour les balades, les voyages, tout ça, quoi.
Alors, vous avez écrit un livre, hein, Un vélo couché à la découverte du monde, aux éditions Nord Avril. Mais en fait, c'est un livre que vous avez auto-édité.
Ça donne un peu plus de liberté dans ce qu'on peut mettre dans le livre.
Alors Nicolas et Céline, vous arrivez de Normandie.
Oui.
Vous êtes arrivés hier et vous avez mis le tandem dans la fourgonnette.
Oui.
Alors qu'est-ce qui fait que vous avez choisi pour votre voyage de noces, parce que c'était ça le but au départ, de partir à vélo? Pourquoi vous n'avez pas pris un billet pour les Seychelles comme tous les couples?
C'est dû en fait à Nicolas qui adore le voyage et particulièrement qui adore le vélo. Et en fait, quand on s'est rencontrés, il avait toujours ce projet-là dans la tête de partir un jour avec son vélo. Et bien sûr, quand il m'a rencontré, il a fallu aussi
s'adapter.
Et donc, le tandem était le moyen idéal pour le suivre. Sinon, à deux vélos, on serait toujours, moi, je serais toujours derrière et lui devant. Et donc, on serait toujours séparés, lui en train de ronchonner devant et moi aussi derrière. Donc voilà, c'était aussi
ça. Ça permet de s'entendre.
Alors, nous sommes donc ensemble jusqu'à 17h, hein, mille et une façons de rouler, mais on a choisi cet après-midi de rouler quand même sur des vélos originaux, on va dire. Premier disque, Jean Béguin, notre directeur des programmes, nous a demandé d'éviter Montant et sa bicyclette. Bien, chef. Tired old woman, my young bride, why are your fingers
the day seem shorter.
On vient d'écouter Midlake, Young Bride, sur un dispositif qui est assez perfectionné quand même cet après-midi au détour du monde, puisque nous sommes tous à vélo. Nicolas et Céline Doublet sur leur tandem, Mathieu Monceau sur son vélo couché, et moi sur mon vélo, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, deux roues, une selle et un guidon. Et je voudrais vous donner le chiffre du jour, c'est 300, parce qu'en 2006, j'ai vu que 300 personnes ont fait un tour du monde à vélo. Ça fait du monde quand même. Et nous, donc, nous en avons trois avec nous cet après-midi. Vous qui avez fait un voyage de noces d'un an en tandem, Céline et Laurent. Et Mathieu Monceau qui est parti tout seul sur son vélo. Mais quel vélo, hein ? Un vélo couché. Et c'est inscrit dessus 44 000 km. Il y a même son nom, hein, au vélo, EOL. Pour démarrer, moi, ça m'a pas l'air facile quand même. Vous allez nous faire voir ça, Mathieu, parce que être couché sur un vélo, on n'a pas l'habitude.
Oui, alors en fait, c'est un peu comme quand on fait du vélo la première fois, comme quand on a 4 ans. C'est un réflexe à prendre, en fait. Hein. Il faut appuyer fortement sur le pédalier pour garder l'équilibre.
Donc là, vous êtes bien allongé, comme dans un canapé.
Et j'appuie fortement sur les pédales, ce qui me donne l'équilibre, et ça part tout seul.
Et on va vous suivre alors, on est le long du canal de l'Ourcq, au nord de Paris. On part à droite ?
Oui, si vous préférez.
Attention, monsieur.
Alors en fait, l'inconvénient bien sûr par rapport au vélo debout, c'est qu'on peut pas se mettre en danseuse. Mais l'avantage par contre, c'est que comme justement on a le dos et le corps bien bloqués sur le siège, on a plus de puissance dans les jambes. On peut pousser davantage sans devoir tirer sur les bras.
Vous voulez dire que dans une côte, vous allez devancer Nicolas et Céline sur leur tandem ?
Non, peut-être pas quand même. Parce que le fait de pouvoir se mettre en danseuse est quand même plus puissant que le reste. Hein.
Bon, l'avantage, c'est que vous n'avez pas la tête dans le guidon, là. Parce que le guidon est juste au-dessus de vous. Alors, il faut vraiment avoir... Oui. Imaginez ce que c'est, allongé avec le guidon au niveau des cuisses, hein, pratiquement.
Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est un désavantage aussi. En général, les
vélos... attention, je vais me prendre un jogger fou.
Les vélos debout, en général, en montagne, dans les montées, ils voient surtout le bitume, en fait. Tandis qu'en vélo couché, on voit beaucoup plus le ciel et le paysage.
Oui, vous voulez dire qu'il y a une sorte de vue panoramique ?
Oui, voilà. Ouais. On voit beaucoup mieux le paysage, en fait, en vélo couché.
Puis a priori, c'est pas de tension dans le dos, dans la nuque, là.
Non, il n'y a pas
de...
Oui, voilà, c'est beaucoup plus pépère, en fait.
On se demande pourquoi ça n'a pas marché, alors ?
Bon, déjà, il fallait réapprendre à faire du vélo. En général, bon, quand on commence à faire du vélo couché, comme ça, on tombe. Donc ça rebute un peu les gens, à mon avis. Après, c'est vrai qu'en ville, c'est pas évident, le vélo couché. Parce qu'on est quand même un peu moins maniable. Pour sauter au-dessus des trottoirs, tout ça, c'est plus difficile.
Ouais.
Mais ça commence à venir, le vélo couché. Il y en a de plus en plus, hein, quand même. Surtout les grands voyageurs à vélo, de plus en plus, se mettent au vélo couché.
Vous en avez croisé beaucoup sur la route, sur ces 44 000 km ?
Alors, en vélo couché, j'en ai croisé qu'un. Et en vélo debout, j'ai dû en croiser une bonne quinzaine, en fait. Donc, pour l'instant, le rapport est assez faible, quand même.
Mais est-ce que vous êtes moins fatigué ? Ça tient vraiment la longue distance ?
Oui, alors en fait, moi, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 25 ans, je faisais des randonnées tous les étés en vélo debout. Et je me suis aperçu, donc les premières randonnées en vélo couché, que je faisais environ 25% de kilomètres en plus, en me fatiguant moins.
Donc c'est vraiment fait pour tailler la route, la longue route autour du monde.
Oui, voilà.
Ça vous rend pas jaloux, Nicolas et Céline, sur votre tandem?
Pour les fesses, si, nos fesses sont jalouses.
Vous en avez bavé, vous?
Ouais, pour les fesses, c'était très dur. Et le vélo couché, c'est vraiment plus confortable pour le grand voyage.
Vous aviez déjà essayé le vélo couché? Vous y avez pensé aussi avant de partir ou pas?
Pas avant de partir.
Pour le retour, oui, par contre. Surtout à la fin du voyage, on en a rêvé. Quasiment. J'ai passé mes nuits à la fin du voyage à rêver d'un nouveau vélo où on pourrait être très bien installé. Donc on pensait à un tandem vélo couché.
Ah, c'est une solution qui existe.
Ouais, ouais.
Mais à ce moment-là, deux vélos couchés, ça fait combien de mètres de long?
Ça fait plus long qu'un tandem.
Parce que là, votre tandem, il mesure combien? Vous avez aussi une petite carriole à l'arrière?
Oui, c'est Bob. C'est Bob. Aka, c'est le tandem. Ouais. Et Bob, la remorque. Donc ça fait 2,40 m le tandem, et puis avec la remorque, on dépasse la longueur d'une voiture, et quand même.
Et en poids, vous faites combien tous les deux?
100 kg avec les bagages et nous dessus.
Le vélo ne fait que 20 kg.
Et le tandem, c'est vous qui l'avez vous l'avez imaginé, conçu, aménagé pour ce grand voyage, de noces?
Alors ça a été une découverte due à Céline, puisque... Moi, en tant que cycliste, j'avais toujours roulé que sur des vélos simples. Et petit à petit, on s'est mis à préparer le grand voyage avec des plus petits voyages d'un mois. Et on s'est rendu compte que mécaniquement, c'était plus les mêmes contraintes qu'un vélo. Il y avait énormément de cases, de contraintes mécaniques, physiques. Et donc, on est parti d'un vélo de série plutôt compétition qu'on a totalement modifié pour le voyage, les roues, les chaînes, au fur et à mesure où ça cassait, quoi.
Il faut être quand même bricolo alors pour partir à vélo.
Il vaut mieux savoir bricoler le vélo en principe. Je sais pas ce qu'en pense Mathieu, mais c'est mieux de s'y connaître un petit peu en mécanique vélo.
Oui, voilà, c'est toujours un plus. Même s'il y en a qui partent faire les tours du monde sans rien connaître à la mécanique vélo.
Ils apprennent, ils apprennent en faisant, en roulant, quoi.
Oui, ou ils font confiance aux réparateurs du coin, en fait.
Parce qu'on en trouve toujours sur le bord de la route. Hein.
Oui, voilà, dès qu'on quitte les pays européens ou les pays riches, on trouve des petites boutiques un peu partout qui nous réparent pour presque rien le vélo.
Même à vélo couché, ils arrivaient à s'y retrouver dans une mécanique un peu particulière parce que le pédalier, c'est la première chose qu'on voit sur le vélo couché, quoi. Le pédalier est en tête.
Oui, alors bon, le vélo couché, moi je le réparais moi-même, mais sinon je crois pas que ça leur poserait de problème. C'est juste la disposition qui change un peu, mais tout le reste, les pièces sont standards, hein, tout est standard.
Pour suivre l'interview, on va peut-être rouler avec Mathieu. Et toi, Laurent, le technicien qui va monter sur le tandem à la place de Céline, et tu vas nous suivre.
On va essayer.
Mets son pantalon dans les chaussettes. Ça, c'est fait vraiment le petit cycliste du dimanche.
Bon, ça va pas être simple. Hein.
Bon, on y va tout doux.
Non, ouais.
On est à côté du canal de l'Ourcq.
Alors, on est où là?
C'est bien, ça reste assez
calme.
Alors,
Laurent, vous avez un pied d'appel.
Ok.
Un pied d'appel, donc là on va partir du pied gauche.
Ok.
Et puis en fait, on va pouvoir appuyer en même temps sur les pédales et partir en rythme et puis que ça fasse avancer le vélo.
D'accord.
Oh, tu te fais léger, Laurent, à l'arrière.
Je vais essayer.
Paré?
Allez, paré.
Alors on y va. Et c'est parti. Là, on va faire attention s'il y a une journaliste un peu gênante qui zigzague un peu. Bonjour.
Bonjour. Et là, on entend le périph', hein, puisqu'on est juste en dessous. Donc, on est tous les trois côte à côte. Mathieu sur son vélo couché, moi sur mon vélo normal, de roue, un vélo debout, et vous sur le tandem. Et là, on va se prendre un camion. Je passe devant. Hein. Vous m'entendez, Mathieu?
Oui, je vous entends.
Alors, Eol, puisque c'est le nom de votre vélo couché, c'était vraiment la star du voyage?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, en fait. Hein. Bon, aux États-Unis, les gens étaient plutôt discrets, ils étaient plutôt derrière la vitre fumée, ils venaient pas trop me parler. Mais par contre, dès l'arrivée au Mexique, là, tous les gens me parlaient le long des routes, donc c'était vraiment la star. Moi, j'étais plus rien du tout à côté.
Vous étiez l'ombre,
oui,
l'ombre
voilà.
Du vélo. Mm-hmm. Bon, alors là, il va falloir qu'on passe sur le côté. Ça passe, là?
Oui.
Ah. C'est là où on voit que ça fait quand même pas loin de 3 mètres le tandem, hein.
Ouais, ça fait long.
Pas facile à manier.
Non, c'est le plus problématique, c'est à l'arrêt. C'est-à-dire que quand il faut le poser contre un mur avec les chargements, ou quand il faut manœuvrer dans des petits coins en ville, c'est pas... Une fois qu'on roule, c'est bon. Hein. C'est plus à manutention, c'est un camion. un camion à pédales.
Allez, on repart.
Bon, Laurent, il est prêt. Hein.
Je suis presque prêt, mais j'ai juste une pédale que j'arrive pas à mettre.
Prêt pour un tour du monde, Laurent.
Il y a une femme qui nous suit pour faire des photos, ça vous intrigue? Ils étaient super tous les deux, sur leur vélo.
C'est ça l'intérêt aussi du voyage en vélo. C'est que bah là, il y a une dame qui nous prend en photo et en fait, c'est partout pareil dans tous les pays du monde. Bah, les gens, ça attire la sympathie.
Et juste Laurent, le technicien, qui est un peu crispé à l'arrière du tandem. Ça va, Laurent?
Ça va.
Et ben voilà, la pancarte de Paris qui nous indique qu'on revient dans Paris et on entend les voitures en même temps. Mathieu, vous pouvez vous arrêter un peu? C'est vrai qu'au début, dans votre livre, à la découverte des routes du monde, que vous avez auto-édité, vous prévenez le lecteur, hein, j'aime bien, c'est assez sympa d'ailleurs le début du livre. Vous dites le début n'est pas fameux, il faut dire que le début du voyage n'était pas fameux non plus. Ça, c'était les États-Unis. Les flics, par exemple, aux États-Unis, 13 arrestations vous avez eues, Mathieu.
Oui, alors bon, c'est vrai que en plus, je suis passé peu de temps après les attentats du 11 septembre. Donc en fait, les gens étaient encore plus inquiets à tout sujet, en fait. Donc dès qu'ils me voyaient le soir, en fait, ou le matin, ils voyaient ma tante, en fait, qui était un peu perdue dans la campagne ou n'importe où même. Ils appelaient la police et la police venait, en fait.
Pour vous déloger?
Oui, voilà. Mais ils étaient assez sympas en général. Hein. Ils vérifiaient mon passeport, tout ça. Et à la fin, je leur racontais un peu ce que je faisais. Et puis ils me quittaient en se serrant la main, en fait. Hein. Donc c'était assez sympa.
Vous employez vous-même le terme de cyclo-clochard?
Oui, j'étais comme un clochard, en fait, hein, aux États-Unis. C'était tout à fait ça. Hein.
Pourquoi?
Bon, parce que j'étais aux États-Unis, c'est vraiment le pays de la voiture. Hein. Tout le monde est en voiture, même pour faire 2 km, on prend sa voiture. Donc moi, j'étais vraiment le marginal à vélo. Bon, en plus, avec mon matériel, tout ça sur le vélo, je ressemblais à un clochard par rapport à eux.
On va faire demi-tour.
Au détour du monde.
Pareil, Laurent.
On y va.
Sur France Inter.
Je peux monter la selle, hein, si c'est trop...
Non, tout va bien.
Tout va bien?
Oui.
Longtemps j'ai peiné pour l'amour, les filles et la tendresse. Maintenant que je vous ai vu, tout ça n'importe plus. Rien qu'un joli sourire de vous, mais comme une caresse. Et vous sentir à mes côtés, je n'en demande pas plus. Que la vida es pulida, que si ça montes l'escalier. Te llevo una bella amiga, far encantar el mundo entier. Longtemps j'ai peiné pour l'argent, la gloire et la richesse. Puisque je vous ai rencontré, tout ça est oublié. Rien qu'un tendre regard de vous, et je remplis mes caisses. Vous voir marcher à mes côtés vaut bien tous les billets. Que la vida es pulida, que si sal montes la escalera. Te llevo una bella amiga, far encantar el mundo entier. Longtemps j'ai peiné pour la joie, les soucis et l'ivresse. Maintenant que vous êtes ici, adieu tous mes soucis. Rien qu'un petit baiser de vous me revient la jeunesse. Et m'allonger à vos côtés m'emporte au paradis. Que la vida es pulida, que si ça montes l'escalera. Te llevo una bella amiga, far encantar el mundo entier.
Arriba, mamá.
Si ça montes l'escalera, te llevo ma bella amiga, far encantar. Que la vida es pulida, que si ça montes l'escalera, te llevo. scalire. Te le io ma per amica fa incantare.
On vient d'écouter Mosuté Forever Polida et c'est dimanche et on a de la chance, il fait un petit peu beau et on a fait la grasse mat quand même et nous voilà donc maintenant à vélo et on en croise un autre de vélo. On est le long du canal de l'Ourcq à la sortie de Paris, donc par le nord. Et je crois que c'est vraiment le meilleur moyen pour s'aérer la tête quand Paris vous l'a prise. Alors comment passe-t-on de Pékin à Lhasa, de Santiago du Chili à Ushuaia ou de Bangkok à Saïgon? Eh bien la réponse, nos invités l'ont trouvée dans le vélo. Alors il y a avec nous Nicolas et Céline sur le tandem, Mathieu Monceau, lui, sur son vélo couché. Il est toujours devant nous, hein, Mathieu. Et on va reprendre avec un petit quiz rapide, là. Vous, Mathieu Monceau, 44 000 km, donc en 27 mois. Et vous deux, combien de kilomètres pendant votre année de voyage de noces?
8 075 km.
Oui, en 10 mois.
8 076.
Céline, c'est le compteur du vélo.
Oui, 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 exact, j'ai le mien.
Petit bras, hein, à comparer de Mathieu. Ouais. 8000 km, 44 000 à ma droite. Uh-huh. Juste, ouais, un petit squeeze, c'était quoi la température la plus haute que vous avez vécue le long de votre voyage?
45.
Au Vietnam.
Vietnam, ouais, le plus dur.
En juin dernier.
C'était où exactement, au Vietnam?
Du côté de Da Nang.
Entre Hoi An et Hue, sur la côte est. Du Vietnam et il y avait un passage, le col des nuages là, et dans la montée c'était assez dur.
Et Nicolas n'en pouvait plus, il transpirait, il voulait s'arrêter tous les 100 mètres et il y avait, quand on faisait un petit arrêt, il y avait des dames qui venaient vendre sur le bord de la route des petits souvenirs ou des petites boîtes de crème ou nous prendre en photo alors que Nicolas était décomposé, qu'il n'en pouvait plus.
Et vous, Mathieu?
Oui, moi c'est à peu près pareil, donc 45-50 en Amérique centrale en fait, principalement.
Donc, c'était où exactement? Alors, un souvenir précis?
Bon, en fait, au Salvador, j'ai eu un accident avec le vélo, ce qui fait que je suis rentré en France en plein hiver, c'était en décembre 2002, 6 mois après le départ du Tour du Monde en fait, donc c'était assez rapide. Donc le vélo a été écrabouillé, je suis rentré en France, j'étais rapatrié. En France, la température, ça devait descendre jusqu'à moins 6. Et je suis retourné donc un mois après au Salvador. Et là, je suis repassé de moins 6 à 45 degrés, 50 degrés. Donc j'ai une grosse insolation en arrivant là-bas.
Alors on reparlera de votre accident après et comment vous avez eu la vie sauve avec votre sifflet. Hein, je vois, il pend là, on va en parler après. La plus haute altitude, vous êtes monté à combien?
Alors moi, à 5200 mètres au Tibet, il y a 3-4 cols à 5200 mètres d'altitude.
5002 dans la tempête, la neige et tout.
Oui, sous la pluie et la nuit sous la neige.
Et on monte 5200 mètres sans problème avec le vélo couché.
Oui,
il faut poser le pied à terre quand même.
Ça dépend en fait. Là, il y avait de la piste debout et ça m'est arrivé de pousser le vélo pendant une journée en fait. Mais bon, le vélo couché ou un autre vélo, ça change pas grand chose. Hein. J'aurais été en vélo debout, j'aurais dû pousser aussi. C'était de la gadoue donc.
Et vous, Nicolas, alors la plus haute altitude avec Céline, c'était quoi?
C'était dans les demi, la Suisse, ouais. Donc au tout départ du voyage.
J'ai attaqué fort.
Voilà, exactement. On s'est dit que ça sera le test pour savoir si après le voyage, on pourra monter quelques cols. Et donc là, c'était 2500 mètres, je crois, hein, maximum.
Et le plus de kilomètres en une journée?
Ouais, moi c'est 190 km. Hein. Ouais, en fait, c'était la montée du Tibet en plus. J'ai dû faire 2000 km de dénivelé ce jour-là. Mais c'est parce que je m'étais levé tôt. Hein. Je m'étais levé vers 6h et j'ai terminé la journée vers 18h en fait. Hein. Donc j'ai fait 190 km en 9h environ. Quoi.
Et vous, votre plus grosse journée?
Nous, c'était au Monténégro et on a fait 100... Ah non, pas
Laos.
Monténégro, au Laos. Ouais. Ah oui, au Laos.
140 km.
Voilà.
Il faut être quand même sportif alors pour faire un tour du monde à vélo. Même si Céline, au départ, vous n'étiez pas trop.
Non, pas trop, je le suis devenue. Uh-huh. J'ai un petit peu arrêté maintenant.
Oui, oui, le tandem, il moisit au fond du garage, c'est ça, avec l'étoile d'araignée?
Oui, un petit peu.
Bah, tout le monde se dit qu'il faut être sportif, mais on a, pour préparer notre voyage, je pense Mathieu peut-être la même chose, on a eu l'expérience avant d'autres cyclistes. Et il y a beaucoup de cyclistes qui ont fait des grands voyages de plusieurs années autour du monde qui avant n'avaient jamais fait plus de 40 km à vélo.
Tu pourrais le faire alors.
Et moi j'ai croisé des gens de 60-65 ans qui partaient faire comme ça des grands voyages à vélo en fait. Ils étaient un petit peu sportifs quand même, mais bon, faut pas forcément être un grand sportif. Hein.
Et alors le plus beau paysage que vous avez eu?
La Cappadoce, pour moi. On a fait un vol en montgolfière l'année dernière, justement il y a un an, c'est la date anniversaire, au-dessus de la Cappadoce en Turquie, et on avait de la neige, donc c'était magnifique. Ouais. Après pour Nicolas, je ne sais pas.
Et même le soir, on est arrivé justement en Cappadoce, un soir, il y avait le coucher du soleil, et c'était sur la Cappadoce, en fait, il faut s'imaginer, c'est un ancien terrain volcanique, et par des millions d'années de pluie, ça a été découpé comme de la dentelle, et c'est rouge. Et il y avait le coucher de soleil, et on voit à l'horizon toute cette dentelle là, c'était superbe. Ouais.
Et le coucher de soleil et la dentelle, vous l'avez vu, vous, Céline, puisque vous êtes derrière le tandem?
Oui, moi, je vois très bien quand même.
Et pour vous, Mathieu, le plus beau paysage, un souvenir gravé à jamais?
Bon, au niveau des paysages, c'était les Andes en Équateur, en fait. C'était tout vert quand je suis arrivé, c'était le plus beau, quoi. Bon, c'était très physique, par contre, parce que ça montait et descendait sans arrêt. Mais c'était très mignon.
Alors, on parle du paysage. C'est vrai qu'en tandem, enfin, a priori, moi, l'idée que je m'en fais, c'est que j'aimerais pas trop être derrière quand même, parce que vous voyez le dos de votre aimé Nicolas qui est devant, mais je sais pas, ça paraît pas plus excitant que ça.
Moi, j'aime bien, c'est regarder justement sur les côtés. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand je suis en vélo toute seule, je suis juste bloquée à regarder le paysage qu'il y a devant moi. Et en fait, j'apprécie pas le paysage parce que je suis stressée sur le vélo. Tandis qu'en tandem, je regarde sur les côtés. Et si vraiment je veux voir devant, je me lève un petit peu ou je regarde sur les côtés. Et quelquefois, c'est même mieux de ne pas savoir ce qui nous attend devant. Quand on voit une grosse côte, c'est bien de ne pas savoir.
Et ouais, puis, Nicolas, c'est toujours vous le guide à l'avant du vélo. Pourquoi c'est vous?
Tout simplement parce que en tandem, comme en vélo normal, avec des charges, il y a énormément de poids sur le vélo. Et c'est difficile à maintenir en direction, notamment dans les côtes. Et faut vraiment beaucoup de force. C'est une dépense physique, autant des bras que des jambes, quoi, pour tenir le vélo en équilibre. Et en fait, on voit peut-être même moins que celui qui est derrière, parce qu'on est très concentré sur la route pour appréhender les obstacles. Et voilà.
Vous voulez dire que c'est vous qui avez fait le plus dur? C'est ça, Nicolas?
Exactement.
En fait, le GPS biologique. C'est moi qui lis la carte et qui dis s'il faudra tourner à droite ou à gauche.
Ouais.
Si on ne s'est pas perdu, c'est grâce à moi.
Donc, il y a une parfaite répartition des tâches. C'est comme à la maison. Il y en a qui font le repassage, l'autre qui passe aspirateur.
C'est pareil.
Donc, en fait, le tandem, ouais, c'est une métaphore du couple. C'est comme ça que vous l'avez vécu.
C'est un apprentissage de la vie de couple, c'est sûr. Il faut être complémentaire. Et puis bien se répartir les tâches, sinon et puis avancer en rythme, sinon le vélo s'arrête, quoi.
Donc il faut toujours être sur le même tempo, hein.
Toujours.
Mais comment vous faites quand vous avez des mollets un peu moins gros que ceux de Nicolas, quand vous en avez marre de pédaler, vous le laissez faire tout seul devant ou...
Éventuellement on appuie un peu moins fort, mais de toute façon il le sent, donc ouais. Non, on s'arrête ou on fait une petite pause et puis après on repart tous les deux, mais. Ou sinon, on arrive à se remotiver, voilà, on motive l'un et l'autre, et ça repart.
On vous arrête à vélo le long du canal, parce qu'on fait une émission au détour du monde sur les voyages à vélo, parce que Mathieu a fait le tour du monde, une 44 000 km sur son vélo couché.
Moi, j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années.
Oui, je vois que vous avez un vélo
En vélo couché, ouais, bien.
Il y a 15 ans, qu'est-ce que vous avez fait?
Je suis parti avec un vélo à travers un peu des pays, quoi.
Le parcours, c'était quoi en
fait? C'était l'Espagne, c'était l'Inde, c'était l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Ouest américain. Ouais. Voilà, j'ai mis 2 ans. Et t'as mis combien de temps à t'en remettre? Parce que moi j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre.
Ouais, j'ai mis, on va dire 6 mois, mais je suis rentré malade en plus. Hein. Donc dès qu'on trouve du boulot, qu'on rentre dans la vie active, ça va mieux. Hein.
Qu'est-ce qui est si dur que ça pour le retour, hein?
Bah, une anecdote, moi je suis parisien. Hein. Bah, je suis tombé dans les rails du métro par exemple. Pour la première fois, j'étais plus connecté. Bah, tu sais, je sais pas comment tu vivais, mais quand tu vis dehors, tout ça.
Vous avez perdu complètement vos repères en revenant à Paris.
Bah, on se dit surtout qu'en fait, on devrait être toujours sur le vélo.
Il y a beaucoup de voyageurs comme ça qui peuvent plus s'en passer en fait.
Ouais. Moi je me suis dit, si je passais, parce que je suis resté 1 an, près de 2 ans, ouais, je me suis dit une année de plus et je reviens pas.
Bah bon retour, bon courage. Merci pour le retour. Hein. Allez, ciao.
quelles en sont gavées.
Au détour du monde sur France Inter.
Israël. Where is the rainbow, c'est ça?
Over the rainbow.
Over the rainbow. Oh, pardon.
C'est joli, il y a les arcs-en-ciel. Vous en avez vu des arcs-en-ciel?
Ouais. Oui. Sur la Turquie notamment. Il y avait des pluies et puis des beaux rayons de soleil, donc beaux arcs-en-ciel.
Et en péninsule indochinoise aussi.
Ah oui.
Pas mal. Parce qu'il y a beaucoup d'orages.
Période de mousson.
En période de mousson. Et en fait, quasiment tous les jours, on a le droit à un petit orage et ouais. Après, on a le droit à l'arc-en-ciel.
Donc aujourd'hui, au détour du monde, on a quitté le studio pour le vélo. On a échangé la moquette pour les petits graviers, les petits pavés là, le long du canal de l'Ourcq. Et donc on est sur la voie verte, hein, ça s'appelle comme ça, direction Meaux. Adieu les bouchons, bye bye le périph. Et là, nous longeons donc le canal. A priori, il n'y a pas de danger, sauf à tomber dedans. Et question danger, Mathieu Monceau, dans votre livre... Vous avez failli y rester hein, au moment, dans votre voyage, c'était au Salvador, mais il y a quelque chose qui vous a sauvé la vie. Et je vois que vous l'avez encore sur votre vélo couché.
Oui, alors voilà, en fait, j'ai été pris sous la remorque d'un camion. Le chauffeur, en fait, il roulait pas trop vite, hein, il roulait à 15 km/h, mais il m'avait pas vu. Hein, et grâce au sifflet que j'avais autour du cou, j'ai pu siffler un grand coup et le prévenir. Et il s'est arrêté directement, en fait.
Il y avait déjà la roue engagée sous le pneu du camion?
Oui, alors en fait, justement, mon pied était coincé aussi sur la roue du camion. Hein. Donc voilà, j'ai pas pu m'extirper comme ça. Et il a fallu qu'il s'arrête. Après, il a fait marche arrière. J'ai pu enfin sortir du dessous de la remorque.
Et le sifflet, donc, c'est vous l'aviez toujours accroché comme ça
Le sifflet, je l'avais autour du cou hein, la plupart du temps. Je le portais depuis l'arrivée à Mexico, parce que je savais que la capitale du Mexique donc, était un peu dangereuse. Je me suis dit, je vais mettre un sifflet comme ça si j'ai un problème.
Et ça donne quoi le sifflet?
C'est extrêmement efficace en fait, ça fait penser à la police. Donc les gens s'arrêtent tout de suite.
Et vous l'avez utilisé plein de fois?
Je l'ai utilisé pas mal de fois. Dans les villes par exemple, les bus qui déboîtent, souvent ils ne nous voient pas bien, ils ne font pas attention. Et...
Là on est sur une zone assez sécurisée puisque ça s'appelle une voie verte, il y a que des vélos, des joggeurs On est tranquille là le long du canal de l'Ourcq, mais j'imagine que la sortie et l'entrée des grandes villes. Ah oui, là, Nicolas, il opine du chef. Ça doit être terrible, non, à vélo, Nicolas?
Ouais, c'est les moments, les seuls moments vraiment pénibles, on peut dire, à vélo, c'est l'entrée dans les grandes villes.
Ce qui fait que par la suite, on a tendance à éviter justement toutes les grandes villes, en fait.
Ou alors, on fait des partis pris et on prend le train juste avant l'entrée dans la ville, dans une petite bourgade, et puis on rentre dans la ville en train si on veut vraiment visiter la ville.
Et vous avez fait l'expérience de quelle grande ville
Athènes, où en fait on est arrivé en bateau au port d'Athènes et il faisait nuit et en fait on s'est trompé et on a pris l'autoroute en pleine nuit.
C'était terrible. On s'est dit on va réussir à du port d'Athènes, en fait on sera au centre-ville mais pas du tout, c'est tentaculaire, c'est une ville gigantesque. Et on s'est retrouvé, on a suivi à un moment des pancartes Athènes. Et en fait, du port, on s'est retrouvé sur le périph', là, des grandes quatre voies en pleine nuit, sans lumière, et en plein milieu du périph', comme ça, avec des voitures qui arrivaient de partout. Et Céline était tétanisée, j'étais obligé d'hurler parce qu'on s'entendait plus avec les voitures. Et à un moment, je lui disais, mets ton bras, elle pouvait même plus bouger son bras pour dire qu'on tournait à gauche ou à droite. Et à un moment, on a trouvé une sortie sain et sauf, on a réussi à vraiment s'extirper, mais après de longs kilomètres en plein milieu du périphérique, quoi.
Sinon, il y a des pays où les autoroutes sont excellentes, où il y a très peu de voitures. Par exemple, au Mexique, moi, je roulais sur les autoroutes parce que les autoroutes étaient payantes. Les petites routes à côté, par contre, les nationales étaient gratuites. Donc sur les nationales, qui étaient assez étroites, il y avait plein de circulation, les camions, les voitures. Donc sur les autoroutes, c'était beaucoup mieux, en fait.
Donc côté pratique, à chaque fois, en fait, c'est de trouver les routes où il y a le moins de passages automobiles. Ouais. C'est quand on est à vélo, c'est ce qu'on recherche.
C'est ça, oui.
Il y a un monsieur qui arrive à vélo aussi.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Là, on est l'émission Au détour du monde sur France Inter. On parle des voyages à vélo.
Ah bon?
Oui, avec ce jeune couple qui a fait le tour du monde en tandem et puis et Mathieu sur un vélo couché.
Moi, je fais du vélo comme ça pour promener, quoi.
Juste pour vous promener
Pour voir Paris, je me balade dans Paris en vélo. Je suis chez ma fille ici. Et puis voilà, je fais beaucoup de vélo, je fais 10 000 par an à peu près. Oui.
Mais vous vous tenez compte de la sécurité? Parce que là, on parlait justement du danger des grandes villes. Vous êtes équipé d'un...
Oui, je vais travailler tous les jours en vélo, donc je mets ça tous les jours pour aller travailler.
C'est une sorte de combinaison jaune fluo, vous êtes repéré partout.
Oui.
Vous n'aviez pas ça pour faire votre tour du monde, vous n'étiez pas très visible.
Non, j'avais pas ça parce qu'en fait, justement, quand on part voyager, on essaye de se faire discret, de pas avoir des vêtements qui flashent trop pour pas trop faire l'étranger dans le pays. Quoi.
Merci. Bon dimanche, bonne balade à vélo.
Merci. Bonne route.
Vous avez commencé votre périple, Nicolas et Céline, par l'Europe, hein, contrairement à Mathieu qui a commencé tout de suite par les États-Unis. Vous avez fait quelle route?
La route qu'on a suivie, en fait, c'est là que c'est un peu l'aventure. Ça se prépare. On avait voulu rejoindre le Normandie jusqu'à Katmandou. Et après, on est parti un peu tardivement dans la fenêtre météo qu'on s'était obligé à prendre. Et en partant avec du retard, très vite, on était pris par l'hiver en Turquie, au mois de décembre.
C'était l'année dernière?
Oui.
Oui, décembre 2005. Et là, on a pris une décision. Il a fallu
Le sud, ouais. Aller en Syrie, Jordanie et Égypte.
Qui n'était pas du tout prévu au départ comme pays à visiter, quoi.
Parce que même l'Europe maintenant se saisit du vélo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Euro Vélo 6.
Oui.
Ah oui, vous connaissez ça. C'est donc une piste cyclable longue de 4000 km qui va de l'Atlantique jusqu'à la mer Noire. Et donc on peut longer comme ça la Loire, le Rhin et enfin on finit avec le Danube pour arriver dans la mer Noire. Alors c'est plutôt chouette donc, comme idée de traverser l'Europe comme ça totalement à vélo sur des voies sécurisées. Et Gwenaëlle à Bolivier, elle a réalisé une étape de 30 km. C'est pas 190 comme vous. 30 km, mais c'est déjà pas mal pour Gwenaëlle. Alors va-t-elle. Elle était entre Uningen en Alsace et Mulhouse. Va-t-elle pédaler dans la choucroute? Eh bien vous le saurez en écoutant son reportage.
Mademoiselle Abolivier Gwenaëlle, votre vélo femme numéro 25. Donc vous avez deux sacoches avec à l'intérieur un petit kit de réparation.
Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous
avez la gourde. Et dans le petit plastique, vous avez donc une chambre à air, les démons de pneus, le petit kit de réparation et une pompe. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Monica.
Je suis de Suède.
Vous êtes de Suède?
Là, c'est mon vélo. Et maintenant, où il faut aller?
Est-ce que vous allez mettre un casque?
Je vais mettre ma casquette. On m'a donné une casquette avec Euro Vélo 6.
On va enlever un petit peu des plures, comme un oignon. On va avoir du plaisir.
En selle, s'il vous plaît. Le sattel. Auf die sattel, bitte.
Alors, quel est le parcours aujourd'hui?
Vous voyez, vous allez partir de Huningue là à l'instant et vous êtes attendu à Rixheim.
Ça fait un beau parcours, il y a combien de kilomètres?
Une trentaine.
Ça va les mollets? Pas trop de crampes?
Les fesses un peu, mais les mollets ça va. On a vu les chutes du Rhin ce matin, on était le long du Danube hier, c'est superbe.
Toi le voyage en vélo, c'est quelque chose que tu aimes bien?
Oui, j'aime beaucoup le voyage à vélo. Pour moi, c'est la meilleure méthode pour découvrir une région parce que c'est la bonne vitesse. Bien sûr, on peut moins s'imprégner des paysages que lorsqu'on est à pied, mais ça offre plus de souplesse pour aller chercher une chapelle qu'à 3 km ou un restaurant à 5. À pied, on est bien plus tributaire de l'itinéraire. À vélo, on est plus libre. Le gros avantage que je vois à ces aménagements de véloroute, c'est la proximité des agglomérations. C'est de pouvoir sortir des agglomérations par ces itinéraires en toute sécurité. Et souvent de manière agréable, parce que c'est souvent joli.
Hello!
Alors cette piste, elle part en fait de l'Atlantique et elle va jusqu'à la mer Noire, en Roumanie. Donc il y a 5 ans, ça paraissait un projet totalement fou. Quand on parlait de ça avec nos élus, ils nous regardaient avec des gros yeux. Et puis aujourd'hui, bah, ça se met concrètement en place, quoi. Et tout est réalisé aujourd'hui, de Montbéliard jusqu'à Bratislava, en Slovaquie. Donc on a pas loin de 1500 km qu'on peut faire vraiment tranquille, à son rythme, avec des enfants, dès aujourd'hui.
Mais alors, qui a eu cette idée?
Cette idée un peu folle, elle est venue de l'ECF, la European Cycling Federation. C'était en 1994. Ils se sont dit, mais pourquoi... Alors qu'on voit cette Europe un peu technocratique commencer à faire peur aux gens, est-ce qu'il ne faudrait pas construire une Europe des gens comme tout le monde, et puis bah, se rencontrer, et puis le vélo, c'est le meilleur passeport de rencontre.
Moi, je vais m'arrêter 2 minutes pour monter ma selle. Ah bah oui.
Schön, hein? Schön, hein?
Eh oui. Une crevaison.
Marvelous.
La berge.
Ah, mais
j'étais à l'œil.
Mais tu m'as semé, Lucie.
Mais oui, mais regardez, vous m'avez rattrapé. Bon, alors on y va?
On y va.
Alors le vélo, premièrement, c'est voir moins, voir mieux. C'est d'entendre, c'est d'écouter, c'est de sentir lorsqu'on traverse les petits villages, la boulangerie. C'est d'entendre les cloches de l'église. Lorsqu'on est en voiture, on voit, mais on ne regarde pas. Là, on regarde, on apprécie et on rentre dans le paysage. Alors, j'ai toujours cette impression de faire partie d'un film, un beau film au cinéma, et d'être dans le film, dans le paysage. Alors, c'est ça, faire du vélo.
German.
Ça y est?
Ouh, c'était gai, c'était bien.
Pas trop épuisé?
Ah non, pas du tout. J'ai quand même l'habitude de faire du vélo.
Ah oui?
C'est mon moyen de transport quotidien. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec le trafic motorisé. Hein. Puisque avec tous les embouteillages, avec la pollution et tout. J'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui font la découverte du vélo.
Il faut développer au maximum. Si vous comparez avec l'Allemagne ou avec la Suisse ou n'importe, oui, en France, on est en retard parce que si l'on compare ça avec l'Allemagne, où il y a énormément de pistes cyclables, il y a des accueils pour les cyclistes hein, et la mentalité aussi. Il faut que les gens ils ne considèrent plus le... Bon, pour eux, c'est le cyclisme, c'est le baba cool, c'est celui qui n'a pas d'argent et tout ça. Il faut qu'ils changent un petit peu leur façon de penser vis-à-vis de ça, quoi.
Retour au bord du canal de l'Ourcq sur nos vélos. C'est vrai que ça donne envie de partir illico hein, pour traverser l'Europe. Alors a priori, donc, le vélo, comme nous dit cette dame, c'est plus pour les babacools, ce serait plutôt pour les bobos. C'est vrai que les cyclos du dimanche se sont un peu modifiés. On avait toujours l'image des, vous savez, de ces gens en groupe qui circulent, ces cyclos avec leurs t-shirts moulants, leurs petits t-shirts Tour de France, enfin habillés vraiment dans ce Tour de France. Maintenant, ceux qui font du vélo, c'est pas les mêmes. Vous êtes jeune, Nicolas, vous travaillez à Gaz de France, vous êtes institutrice, hein, Céline, c'est ça. Et vous n'êtes pas baba cool a priori.
Non, moi, un de mes rêves de gosse, c'était un peu des gens comme Jacques Kerouac et puis sur la route, quoi. Et aller vers Katmandou et donc...
Ça c'est quand même baba cool comme idée.
Oui, voilà, et donc c'est pour ça que le périple, le chemin qu'on a voulu suivre en vélo n'était pas... c'est fait comme ça, quoi. Il y a quand même cette notion de partir.
Est-ce qu'on pourrait imaginer faire le tour du monde rien que sur des voies vertes en évitant les voitures? C'est possible, Mathieu, vous qui avez roulé 44 000 km sur votre vélo couché?
Non, je crois pas, non. C'est possible en Europe, mais après c'est plus possible, je crois.
Mais même la voie verte en Europe n'est pas encore tout à fait terminée, il y a encore des trous à compléter, surtout en France d'ailleurs, puisque la France est assez en retard. Je pense que la route, non pas la route, le véloroute, sera prêt 2008-2009. À ce moment-là, on pourra voyager comme ça avec son vélo, sa famille. Ça devient quelque chose d'abordable pour tous, c'est plus un exploit. Je dirais, c'est presque plus un exploit de faire du vélo.
Oui, on ne sait plus. D'ailleurs, je connais pas mal de familles comme ça qui, malgré le fait d'avoir des enfants, partent en vélo. Ils ont la petite remorque derrière avec les petits-enfants de 3-4 ans même des fois. Et voilà, ils passent un mois à vélo comme ça en France, en Europe.
Et alors le vélo, est-ce que ça permet vraiment des échanges ou des rencontres différentes autour du monde? Le tandem,
le tandem. Dès qu'on nous voit passer, de toute façon, tout de suite les gens nous regardent et ils viennent tout de suite parler, nous arrêter, nous inviter chez eux. On a l'impression d'être des stars, hein. C'est un peu ça. Hein.
Ça, ouais, des fois, ouais. Ouais. Ouais, les gens sont tout de suite attirés, puis ils voient tellement, que ce soit n'importe où dans le monde, les pays arabes, peut-être même l'Amérique du Sud, Mathieu, enfin, ils voient tellement de touristes passer en bus et puis ne pas s'arrêter, que quand ils voient quelqu'un faire un effort physique, en fait, venir se confronter peut-être à leur climat qui des fois est difficile, ils sont beaucoup plus peut-être respectueux, quoi, ou en tout cas interloqués et viennent nous voir.
Ils vous voient passer, ils vous disent chapeau bas et tout, ils sont...
ils viennent nous aider, si on a besoin de nourriture ou d'eau, ils nous l'offrent tout de suite, il n'y a jamais eu de problème. Quoi.
Et Mathieu, j'ai lu dans votre livre, vous avez carrément été célèbre, vous, au Mexique.
Oui, racontez-nous ça. Donc un jour, je suis arrivé à la mairie, comme ça. Enfin, je cherchais un cybercafé pour mettre mon site internet à jour, dans une grande ville. J'étais dans la bibliothèque municipale, on m'a conduit à la mairie, parce que là-bas ils avaient internet, tout ça.
C'est dans quelle ville ?
Chihuahua, si je me souviens bien. Et en fait, les journalistes, il y avait quelques journalistes qui étaient à la mairie, et il y en a plein d'autres qui sont arrivés, ils ont fait des reportages, c'est passé dans les journaux, la radio. Donc le lendemain, en fait, j'étais arrêté sans arrêt, le long des routes. Même sur les autoroutes, en fait, il y a une voiture, je me souviens, qui était lancée à peut-être 120 km/h. Elle m'a vu sur la bande d'arrêt d'urgence et puis elle a arrêté net la voiture. Elle a fait marche arrière comme ça sur au moins 200 mètres.
Elle venait saluer les deux héros, Mathieu et Éole, c'est ça ?
Oui, voilà. Oui.
Tu remontes sur le vélo, Laurent, pour la fin de l'émission ?
Oui, avec plaisir.
Et la selle ?
C'est très dur.
C'est vrai ?
C'est vraiment dur.
Le pire, ça sera demain, ouais.
On va y aller ?
Parti.
Mathieu, il part toujours devant. Et le vélo, il pesait combien pendant le voyage autour du monde, Mathieu ?
Alors, le vélo pèse dans les 24 kilos, et j'avais à peu près 50 kilos de bagages.
Alors toi, c'était plutôt sur des sacoches, c'est ça ?
Oui, voilà, j'avais deux sacoches au niveau des hanches, et deux sacoches derrière le vélo.
Parce que Nicolas et Céline, eux, avaient choisi plutôt la remorque.
Oui.
Bon, il y a ceux qui sont pour les remorques, ceux qui sont pour les sacoches. Alors merci d'être venu jusqu'ici avec vos vélos, hein, vos vélos qui ont connu les nids de poules du monde, les vélos où vous vous êtes frottés comme ça, toutes ces rencontres. Mathieu Monceau, donc à la découverte du monde, donc c'est un livre auto-édité, on le trouve où Mathieu ?
Bon, on le trouve dans toutes les librairies de France, hein, où on peut le commander aussi par l'intermédiaire de mon site internet, mathieu.monceau.free.fr.
Et vous, Céline et Nicolas Doublet, donc vous avez aussi un site, hein, un site qui est très très joliment fait d'ailleurs pour suivre votre voyage de noces en tandem qui s'appelle
www.voyage-tandem.com.
Ce week-end se tient aussi à Saint-Denis le 21e festival du voyage à vélo. Donc il faut faire vite hein, parce qu'ils doivent être en train de remballer les stands. Mais il y a pas mal de renseignements sur leur site, hein, cyclo-camping. international. Et fin février aussi, il y a un carnet d'aventure, un spécial hors-série voyage à vélo. On le trouve dans tous les kiosques pour tester du matériel. Il y aura aussi des récits de voyage. Au détour du monde, donc, c'est un voyage organisé avec Violaine Ballet, Lucie Sarfati, Emmanuel Chupin et Laurent Macchietti à la perche derrière le tandem. Qui a mal aux fesses. Dimanche prochain, on part donc dans le Grand Nord pour des vacances à la recherche du grand froid. Et dans un instant, vous retrouvez Emmanuel Carrade dans sa librairie francophone. Ciao.
Je suis comme qui dirait.